Bonjour à chacun. Un grand merci pour l'introduction et pour la louange qui vont pile poil dans la direction de ce que j'aimerais partager avec vous, de ce que Dieu a mis sur mon cœur. Vous savez, c'est toujours un bon signe quand les choses s'articulent ainsi. C'est vraiment le signe que voilà, l'Esprit a parlé et l'Esprit a une logique, il sait ce qu'il fait. Et voilà, on va essayer d'être à son écoute ce matin. J'aimerais commencer par lire la fin du chapitre du livre de Jonas, pardon, le chapitre 4, parce que tout a une fin, hein. Même le livre de Jonas. C'est vrai qu'on aurait pu prendre Ézéchiel, on y aurait encore un moment, hein, mais on va rester avec Jonas. Chapitre 4, verset 1, qui est un assez bon descriptif de ce qu'on est parfois. Jonas le prit mal, très mal, et il se fâcha. Il pria le Seigneur et dit, « Ah, Seigneur, n'est-ce pas précisément ce que je me disais quand je vivais sur mon terroir ? Voilà pourquoi je m'étais empressé de fuir à Tarsis. Je savais bien que tu es un Dieu bon et miséricordieux, lent à la colère, plein de bienveillance, et qui revient sur sa décision de faire du mal. » Maintenant, Seigneur, je t'en prie, retire-moi la vie. Mieux vaut pour moi mourir que vivre. As-tu raison de te fâcher ? Lui dit le Seigneur. Jonas sortit et s'installa à l'est de la ville. Là, il se construisit une hutte et s'assit dessous, à l'ombre, en attendant de voir ce qui se passerait dans la ville. Alors, le Seigneur Dieu dépêcha une plante qui grandit au-dessus de Jonas, de sorte qu'il y avait de l'ombre sur sa tête, pour le tirer de sa mauvaise passe. Cette plante causa une grande joie à Jonas. Le lendemain, à l'aurore, Dieu dépêcha un ver qui attaqua la plante, elle creva. Puis, quand le soleil se mit à briller, Dieu dépêcha un vent d'est, cinglant, et le soleil tapa sur la tête de Jonas. Prêt à s'évanouir, Jonas demandait à mourir. Il disait, « Mieux vaut pour moi mourir que vivre. » Il est un peu répétitif, le garçon, hein ? Alors Dieu lui dit, « As-tu raison de te fâcher à cause de cette plante ?» Jonas lui répondit, « Oui, j'ai raison de me fâcher à mort. » Le Seigneur lui dit, « Toi, tu as pitié de cette plante pour laquelle tu n'as pas peiné et que tu n'as pas fait croître, fille d'une nuit, et elle a disparu, âgée d'une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, où il y a plus de 120 000 êtres humains qui ne savent distinguer leur droite de leur gauche, et des bêtes sans nombre. » Et ce qui est intéressant, c'est que ce livre s'arrête là, sur cette interrogation. C'est à nous de donner la conclusion. Vous vous rappelez qu'on avait dit au départ que ce livre pouvait être compris comme un manuel à l'intention des apprentis prophètes. Et je crois qu'il y a là vraiment quelque chose qui peut nous interpeller encore aujourd'hui. Nous verrons au travers de la réflexion de ce matin comment Dieu nous parle. Et c'est vraiment là que j'aimerais rejoindre l'introduction et le temps de louange. Comment est-ce que Dieu me rejoint ? Comment est-ce que j'entends la voix de Dieu ? Comment est-ce que je peux cultiver cette relation avec Dieu ? Et dans ce sens-là, le chapitre 3 et le chapitre 4 de Jonas sont véritablement très très riches d'enseignements. Le dernier chant que nous avons chanté nous dit « Mais qui suis-je pour que tu m'aimes ?» hein ? Alors on pourrait parler les uns et les autres de nos rencontres avec Dieu. Et souvent, parfois, nous avons tendance à rester dans la rencontre. La rencontre, c'est un moment magnifique. Et il y a des rencontres qui sont plus ou moins exceptionnelles. Il y a des gens qui ont des conversions tout à fait incroyables. J'ai entendu il y a quelques années le témoignage de Claudine Gabarbet. Je ne sais pas si ça vous fait tilt. Claudine Gabarbet, Radio Suisse Romande, Patrick Lapp. Voilà, hein, vous y êtes un petit peu. Une femme très particulière, artiste, comédienne, qui a vécu une enfance très compliquée, éduquée par deux tantes un peu acariâtres. Et un jour qu'elle était chez elle, tout d'un coup, elle arrive dans la cuisine et il y avait quelqu'un. Et elle lui dit, « T'es qui ?» Il faut connaître un peu Claudine Gabarbet. Hein. « T'es qui ?» Et le gars lui dit, « Je suis Jésus. » « Le Jésus de la Bible ?» Ouais. Elle est restée un moment comme ça. Elle est descendue. Elle est sortie de la maison. Elle s'est installée sur le trottoir. Elle a fumé une clope. Et puis elle est remontée. T'es toujours là ? Ouais. Et la relation a commencé. Et j'ai trouvé cette rencontre avec Jésus absolument exceptionnelle parce qu'elle parle tellement de notre humanité. C'est du Claude Ingabarbet pur sucre. Elle est comme ça. Et c'est comme ça qu'elle a rencontré Jésus. Jésus nous rencontre comme nous sommes, pas autrement. Il n'y a pas un schéma. Il ne faut pas être déjà un bon chrétien, avoir appris tous les gestes, les paroles, etc. Savoir les gemmes jusqu'au numéro 947. Non, comme on est, avec qui nous sommes. Et c'est de cette manière que Dieu va dialoguer avec nous, en fonction de qui nous sommes. Il y a les taiseux et il y a ceux qui causent. Il y a des gens qui ne vont pas arrêter de prier, de dialoguer avec Dieu tout le temps, au feu rouge, et même parfois au feu vert, rarement à l'orange. Et puis il y a ceux qui fixent des horaires, de telle heure à telle heure, très structurés. Dieu s'adapte à nous parce qu'il nous a créés comme ça, tels que nous sommes. Et la première chose qu'il veut faire après notre conversion, après notre rencontre, et ça me paraît extrêmement important, c'est marcher. Marcher avec nous. On a des fois l'impression ou on a des fois la volonté d'être tout de suite dans l'action. Peut-être que Jonas, après être sorti du poisson, là qu'il est encore tout trempé sur la plage, peut-être qu'il aurait envie de dire à Dieu, « Bon, ben maintenant, ok, tu me transportes à Ninive et puis on se met en marche. » Et Dieu lui dit, « Non, va à Ninive. » On en a parlé un petit peu la dernière fois. Hein. « Va à Ninive, ça va prendre du temps. Hein. Tu vas marcher. » Et en marchant, on va parler. On va parler, on va apprendre à se connaître, on va dialoguer ensemble. Je vais te former, je vais te dire ce qui est important. Ah, peut-être que Jonas se dit, waouh, super, Dieu va me dire exactement ce que je vais devoir dire aux Ninivites. Il va me donner le message, je vais pouvoir le peaufiner, peut-être l'améliorer un peu, le compléter. Mais si vous lisez bien le premier verset du chapitre 3, il dit à Jonas, « Lève-toi, va à Ninive et profère contre elle l'oracle que je te communiquerai. » C'est dans le futur. Jonas part à Ninive, il ne sait pas ce qu'il va dire. Ah, c'est embêtant, hein ? C'est embêtant. On aimerait bien toujours savoir ce que Dieu veut qu'on dise. Mais je crois que là, Dieu essaye de dire à Jonas une chose extrêmement importante. C'est qu'il doit avoir en lui le besoin de connaître les paroles de Dieu. Vous savez, on me demande parfois, ou pas seulement à moi, mais à plein de gens, comment est-ce qu'on fait pour entendre la voix de Dieu ? Vous lisez Ésaïe, la parole de Dieu me fut adressée. On a l'impression qu'il a reçu un CD, hein, et puis tout était là. Et puis nous, on dit, mais tant Seigneur, waouh, c'est où ? Besoin d'entendre ta parole. Ça, la parole, elle naît de ce besoin. Est-ce que nous avons besoin d'entendre la parole de Dieu? Ou est-ce que c'est juste dans les cas d'urgence? Juste quand le feu ne passe pas au vert et qu'on est déjà en retard? Est-ce que nous avons besoin d'entendre? Vous savez, il n'y a pas de vie spirituelle, il n'y a pas de vie d'église sans ce besoin permanent d'entendre la parole de Dieu et d'être en contact, en rapport avec lui. Parce que c'est cette parole qui est fondamentale. Le reste, c'est de la littérature. Le reste, c'est de la théologie. Le reste, c'est nos idées. Mais ça n'a pas de valeur. Ce qui change le monde, ce qui change les vies, ce qui est l'espérance de l'humanité, c'est la parole de Dieu. Ce sont les paroles que Dieu met en nous et que nous pouvons répéter. Mais tellement souvent, on a de belles paroles. Alors, Dieu nous apprend des leçons. Et cette première leçon qu'il donne à Jonas, c'est celle-ci. Tu vas à Ninive, mais le message que tu vas proférer, c'est moi qui te le donnerai. Ce ne sont pas tes idées, ce n'est pas ta rancœur par rapport à ce peuple qui opprime ton pays. Si Dieu nous envoyait à la Maison Blanche, imaginez ça. Dieu nous envoie à la Maison Blanche rencontrer un monsieur orange pour le faire passer au rouge. Mais on aurait plein de choses à lui dire. On aurait plein de choses à lui dire. Et Dieu nous dirait, pas tes idées, écoute ce que j'ai à dire au monsieur orange. C'est pas si facile que ça. On est tellement fiers de nos idées. Je me rappelle, j'ai été pendant 8 ans rédacteur des journaux de l'Armée du Salut, et j'avais une rubrique qui s'appelait « Lettres pour aimer ». Et j'aimais bien cette rubrique. Et un jour, j'avais écrit un texte et j'étais assez fier de moi. C'était un beau texte, c'était un texte vraiment profond, c'était un texte bien, super bien écrit, c'était... Waouh, j'étais content. Et quelques jours après que le texte soit publié, je reçois un téléphone d'une dame que je ne connais pas et qui me dit, écoutez, voilà, j'ai reçu le journal de l'Armée du Salut et puis, en page 2, donc là où il y avait ma rubrique, j'ai été tellement touché par ça. Mais ça m'a bouleversé. Et moi, j'étais super fier. Je dis, ah oui, ouais, c'est vrai que c'est un très beau texte. Et là, il y a eu un grand silence. Et elle m'a dit, le texte, ah, je ne l'ai pas lu. Mais l'image m'a bouleversé. Et ça a été une bonne claque que le Seigneur m'a donnée. T'écris bien, mais s'il n'y a pas mon esprit, si ce n'est pas moi qui ai dit, il n'y a rien. C'est juste des paroles. Et des paroles, il y en a tellement. Et des bien plus belles que toutes celles que nous pourrons proférer. Si ce n'est pas l'esprit qui parle au travers de nous, alors il n'y a pas grand-chose. Dieu est celui qui dicte le rythme. Jonas avait à peine marché une journée, il fait à peine le début de la moitié de la ville, que déjà toute la ville se convertit. Qu'est-ce qu'il a dû penser, Jonas? C'était ambivalent. D'un côté, waouh, quel succès, parce que c'est quand même le Billy Graham de l'Ancien Testament, Jonas. Hein, c'est le seul qui, en une journée, a réussi à convertir 120 000 personnes. Ça, même Pierre à la Pentecôte, il n'a pas fait autant. C'est juste incroyable. Mais en même temps, c'est tellement frustrant, parce qu'il n'avait pas eu le temps d'aller engueuler toute la ville. Hein ? Il y en avait encore facilement 70 ou 80 000 à secouer. J'ai vécu une fois une chose comme ça. Toute proportion gardée, bien sûr, je n'ai pas converti 120 000 personnes, de loin pas. C'était un congrès de musique de l'Armée du Salut, un congrès international de musique, et il y avait à peu près 2 000 personnes qui étaient là, et on m'avait demandé d'apporter la prédication le dimanche matin. Alors, prédication, je me mets en écoute des semaines à l'avance, parce que c'est une date qui est prévue depuis longtemps, et assez rapidement, Dieu me donne le texte sur lequel parler. Mais c'est un texte très riche, avec plein d'éléments, et j'arrive pas à trouver qu'est-ce que Dieu veut que je dise au travers de tout ce texte. Les jours passent, les semaines passent, et j'ai le texte, mais j'ai pas la prédication. Le jour avant, samedi donc, j'arrive au congrès de musique, j'ai le texte, mais j'ai pas la prédication. Et l'ami qui doit me traduire et qui a l'habitude de me traduire vient vers moi et me dit « On parle de quoi demain ?» J'ai dit « J'ai le texte, mais je n'ai pas la prédication. » Alors lui devient un peu blanc parce qu'il me connaît, il se dit « Purée, ça va être compliqué. » J'ai dit « Mais t'en fais pas, demain matin, j'aurai le tout. » Dimanche matin, j'arrive, je monte sur l'estrade, début du culte, c'est comme ça que ça se passait. 2000 personnes devant moi, mon traducteur assis à côté de moi. Il me dit « T'as le texte ?» J'ai dit « Oui, j'ai le texte, mais j'ai pas la prédication. » Il me dit « Faudrait peut-être commencer à s'agiter. » Et là, je peux vous dire qu'on est dans une situation de besoin de la parole qui est extrêmement importante. Seigneur, parle. Seigneur, parle. Et le Seigneur se tait. Créer en moi un besoin impérieux de savoir ce qu'il veut qu'on dise, que je dise. Le culte progresse, j'ai le texte, je n'ai pas la prédication. Et dernier chant, juste avant que je doive me lever, tout d'un coup, une phrase, et tout s'éclaire. Tout s'éclaire. Je regarde mon traducteur, j'ai dit, c'est bon. Et on se lève, je commence à parler, j'ai bien mon message en tête, tout est clair. J'arrive à peu près au premier tiers. Et vous savez, à l'Armée du Salut, on a cette habitude d'avoir un banc devant où on peut venir s'agenouiller si on veut faire un acte de repentance ou un acte de consécration, etc. Et là, j'arrive au premier tiers de ma prédication. Et un homme se lève à la moitié de la salle. Mais il ne se lève pas discrètement. Il se lève, il renverse sa chaise, il jaillit. Il saute par-dessus la rangée de devant, il bouscule tout le monde, il fait un raffut pas possible, il court jusque devant, il s'effondre à genoux en larmes. Et une autre personne, et une autre personne. Et moi, j'ai encore deux tiers de prédication à dire. Je suis un peu comme Jonas, un peu frustré quand même. J'ai tellement attendu. Et Dieu me fait ce petit clin d'œil me disant « Désolé, mais j'ai pris un peu d'avance. » Oups. Ben, j'ai plus qu'à me taire. Vous voyez ? La dépendance. C'est ça. C'est la parole qui est importante. C'est l'esprit qui est important. Ce que je suis, ce que je fais... Je suis juste un serviteur que Jésus n'a pas négligé de taxer d'inutile. Je suis juste un serviteur. C'est ma consécration qui est importante, plus que les paroles que je prononce. C'est ma consécration qui est importante. Être à l'écoute. Dire les mots que Dieu met dans mon cœur. Dire les mots. J'ai travaillé dans le cadre de l'imprimerie et en typographie, plus qu'en offset, je ne vais pas vous embêter avec des choses très techniques, mais en typographie, l'encre est formée de deux éléments. Le pigment et ce qu'on appelle le véhicule, qui est un corps gras, une huile, en fait. Hein. Et le pigment, tout seul, il vole. Il s'envole au vent. On ne peut rien faire avec ça. Et l'huile, c'est juste de l'huile. On ne peut pas imprimer de l'huile. Mais si on mélange les deux, eh bien, l'huile est capable d'amener le pigment là où il doit être et former un texte. Voyez ? Nous sommes l'huile, un corps gras. L'esprit, c'est le pigment qui vole, mais qui, quand il est conjugué avec nous, avec notre foi, avec notre consécration, mais aussi avec notre humilité, avec notre humanité, avec nos manquements, nos incompréhensions, quand il se mélange à nous, il devient lisible pour les autres. Il devient lisible pour les autres. L'huile, on l'appelle le véhicule. Nous sommes le véhicule de Dieu. Mais ce n'est pas nous qui possédons le message. Ce n'est pas notre message. Ce n'est pas notre science. Ce n'est pas notre théologie. Ça n'a aucune importance. C'est ce que l'Esprit dit qui est important. Et l'Esprit est capable de changer d'avis. Et on n'aime pas ça. Ça nous fait rire hein, quand on dit « Jonas le prit mal, très mal, et il se fâcha. » Et pourtant, si Dieu nous pousse à changer notre théologie, à changer notre lecture, à changer de concept spirituel, pas sûr qu'on le prenne si bien que ça. On est souvent figé, bloqué dans nos idées, bloqué dans nos concepts. Jonas a dû annoncer la condamnation à la ville et Dieu a répondu par la grâce. Parce que la loi suprême du royaume, c'est l'amour, c'est le pardon, c'est la vie. Ce n'est pas la condamnation. Ah, mais on aime bien condamner les gens qui ne sont pas comme nous. Alors, la question qu'on peut se poser et qu'on doit se poser, c'est est-ce que nous servons Dieu ou est-ce que nous asservissons Dieu à notre conception de qui il est ? Est-ce que nous tordons le message qu'il nous donne de façon à ce qu'il s'encastre dans l'exiguïté de notre connaissance de lui ? Je lisais cette semaine un texte qui m'a percuté, Jean 5, 39, où Jésus dit aux pharisiens qui sont là, mais il aurait pu dire ça aussi aux disciples, « Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez acquérir par elles la vie éternelle. » Nous, on a tendance à dire « Alléluia ». Or, ce texte, si vous relisez ce passage dans Jean 5, vous verrez, ce texte, il est mis en rapport avec la mauvaise utilisation du sabbat. Jésus n'arrête pas dans l'évangile de Jean de faire ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire de ne pas se tenir tranquille le dimanche, non, enfin le samedi, puisque le sabbat, c'est le samedi. Et Jésus énerve les gens autour de lui avec ça. Et Jésus leur dit, mais vous revenez toujours avec ce que dit la parole par rapport au sabbat. Mais j'aimerais vous dire une chose, et ça c'est très gênant parce que pour nous, l'autorité suprême, c'est la parole. Sola scriptura, hein, la parole seule. Voilà, ça c'est la base. Et Jésus est d'accord avec cela. Il dira pas un iota ne sera effacé, etc. Il est d'accord avec ça, mais il est d'accord avec ça, mais il n'est pas forcément d'accord avec la manière dont nous interprétons la parole. C'est ça le problème. C'est pas la parole. C'est la manière dont nous interprétons la parole. Et c'est ce qu'il essaye de dire à ces gens par rapport au sabbat. Alors nous, ça nous intéresse moins, le sabbat. Mais il y a tellement de questions aujourd'hui sur lesquelles nous nous bloquons dans notre lecture de la parole. Toutes les questions éthiques, par exemple. Nous sortons des versets, nous assommons les gens avec ces versets. Et je suis sûr que si Jésus était là, il dirait « Mais, si votre lecture de la parole se met en opposition avec l'amour, alors votre lecture est biaisée. Parce que la loi suprême du royaume, c'est l'amour. Si au nom de la parole, ma lecture me permet d'exclure des gens ou de condamner des gens, ma lecture est biaisée. C'est dur ce que je vous dis, hein, et c'est... Hein, mais écoutez bien cela, je crois que c'est une chose extrêmement importante. Vous savez, on est facilement un peu comme Marine Le Pen. On applique la grâce à notre cas personnel, mais on la refuse aux autres. Voilà, si vous avez été un peu attentif à ce qui s'est dit, vous voyez à quoi je veux faire référence. On applique la grâce à notre cas personnel, oui, Jésus me fait grâce, mais pour les autres, qui ne sont pas tout à fait comme nous, c'est plus compliqué. Ce n'est pas nous qui décidons de cela. Ce n'est pas Jonas qui a décidé s'il pouvait pardonner ou pas pardonner aux Ninivites. C'est Dieu qui le fait, parce que c'est Dieu seul qui pardonne. Et si Dieu pardonne, qui suis-je pour me mettre en travers de cela ? Qui suis-je ? Quel argument théologique ? Quel montage intellectuel et spirituel est-ce que je peux amener pour contredire Dieu ? Pour contredire l'amour de Dieu ? Qui suis-je ? Quand Dieu parle avec Job, à la fin du livre, il lui dit, parce que Job argumente et argumente encore, et Dieu lui dit, mais t'es qui ? T'étais où quand les étoiles dansaient tout ensemble ? J'aime beaucoup cette image de la cosmologie. Hein ? Quand les étoiles dansaient tout ensemble avant de s'organiser, t'étais où ? T'es qui ? T'es qui, toi ? C'est moi qui décide. C'est moi qui décide. Et c'est moi qui juge, c'est moi qui fais grâce. Et ça, c'est une leçon qui est difficile à entendre. Et ce n'est pas pour rien que Dieu a fait marcher Jonas de Judée jusqu'à Ninive. Parce qu'il savait que la leçon qu'il avait à apprendre était rude, était compliquée, et que c'est une leçon que nous peinons à apprendre. Dieu est plus grand que nos concepts. Dieu est plus grand que nous. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Alors qu'est-ce que fait l'Église ? Et par rapport à la réflexion que vous avez par rapport à votre futur de l'Église, cette conclusion du livre est probablement très importante et très intéressante. Parce que ce que fait Jonas est assez typique de ce que nous faisons, nous, quand ça ne fonctionne pas comme ça devrait fonctionner. Quand nous avons l'impression que Dieu se tait, quand nous avons l'impression que le temps des miracles est passé, hein, on a souvent entendu cette phrase dans l'Église, le temps des miracles est passé. C'était avant, mais maintenant, ça ne marche plus comme ça. Ça ne marche pas comme ça devrait. Les gens ne viennent pas tout seuls dans l'Église. On prie, mais Dieu ne nous écoute pas. On dit des choses et puis il fait autre chose. on est perdu. On continue l'Église ou on arrête l'Église? Ça a un sens ou ça n'a pas de sens? C'est des questions. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, d'abord, on déprime, on dort un petit coup, et Jonas dort beaucoup dans ce livre, si vous avez remarqué, dort beaucoup. Et quand on dort, on n'est pas en écoute. Quand on dort, il ne se passe rien, pas grand-chose en tout cas. On ronfle peut-être, mais ça n'a jamais converti personne. On dort. Et puis, on construit une hutte et on observe ce qui va se passer dans la ville quand on n'y est pas. Et ça me paraît être une belle description de ce qu'est l'Église aujourd'hui. On construit une hutte, une église, on se met dedans, à l'ombre, en sécurité, au chaud, et on observe le monde partir à la dérive. L'Église qui a toujours 3 trains de retard, l'Église qui n'est jamais à l'avant, l'Église qui ne montre pas la direction, l'Église qui ne dicte pas le rythme, l'Église qui est toujours derrière, à courir derrière, ou même pas à courir, l'Église qui observe le monde, qui commente, qui juge, mais qui n'est pas un acteur du monde. Et ça, c'est Jonas. Ça, c'est Jonas. Et alors Dieu vient et Dieu lui pose cette question, mais est-ce que j'avais raison de faire ce que j'ai fait? Et je crois que c'est au moment où nous disons à Dieu, oui, tu as raison. Oui, je me soumets à qui tu es. Je me soumets à ta volonté. Je m'ouvre à la grâce, pas seulement pour moi, mais aussi pour les autres. Je me remets à l'écoute. Je redeviens un prophète. Un prophète, ce n'est pas quelqu'un qui est enfermé dans sa hutte. C'est quelqu'un qui est dehors. C'est quelqu'un qui vit avec les autres. Qui vit avec les autres. Qui vit sa foi avec les autres. J'ai entendu le témoignage un jour de quelqu'un qui s'était, il n'y a pas longtemps, c'était sur Internet, quelqu'un qui s'est converti, un musulman je crois, qui s'est converti et qui dit, après ma conversion, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de chrétiens autour de moi. Mais après, avant il n'en servait rien parce qu'ils étaient tous dans leur hutte. Mais une fois qu'ils ont vu qu'il y avait un gars qui était comme eux, alors ils ont dit, oh, viens voir dans ma hutte. Mais il aurait dû les voir avant. Où sommes-nous? Où sommes-nous dans notre Ninive personnelle? Que faisons-nous? Est-ce qu'on est là à dire, Seigneur, prends ma vie, j'en ai marre? Dépressif à fond. Une église dépressive. J'ai cité le fait, un de ces derniers dimanches, du nombre de pasteurs en burn-out. Du nombre de pasteurs en burn-out. Est-ce que ça ne nous interpelle pas, ça? Mais c'est totalement contradictoire. Un pasteur, messager de la bonne nouvelle, en burn-out. Je ne critique pas, j'ai été moi-même en burn-out. Un long burn-out, une année. Je ne critique pas du tout. Je m'interroge. En quoi l'Église, nous, les fidèles, sommes-nous responsables de cet état de fait? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas entre nous? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans notre relation avec Dieu? Qu'est-ce qu'on fiche dans cette hutte? Ça, c'est la question. Et le livre s'arrête sur une question. Alors, je ne vais pas vous donner la réponse, parce que c'est à chacun d'entre nous de donner la réponse. C'est à l'Église de reconvier, ici, de donner la réponse. En se laissant inspirer par l'Esprit. en redécouvrant ce besoin profond, impérieux, d'être à l'écoute, d'être dans le cœur à cœur, pas seulement au feu rouge, mais tout le temps, de chercher, d'écouter, d'accepter et de parler par des mots, par des regards, par des gestes. Mais notre monde a besoin d'entendre la parole de Dieu. Notre monde se meurt de ne pas entendre la parole de Dieu. Alors, ne restons pas trop dans la hutte. Amen.